Au-delà du job,
le podcast qui explore le monde du travail
et plus encore. Tout travail mérite salaire. Oui, mais comment ? En quoi le salaire influe sur le bien-être au travail ? Comment l'appréhender et le déterminer ? À quoi ressemblera-t-il dans le futur ? On en parle avec Romain Dumont, responsable RH chez Microsoft.
Bonjour Romain Dumont, donc vous êtes responsable ressources humaines chez Microsoft. Bienvenue dans le podcast Au-delà du job. Selon vous, comment le salaire influe-t-il sur le bonheur d'un collaborateur, sur son engagement au travail ?
Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre de manière structurée. On dit que tout travail mérite salaire, donc forcément, je pense qu'on se l'est tous dit une fois, si on gagnait au loto, on n'irait peut-être plus travailler. Et en même temps, c'est pas complètement vrai, parce que le travail ne prend pas que cette fonction économique dans notre vie. De nous rapporter un salaire, on le sait, il y a aussi le besoin de reconnaissance sociale, il y a le besoin de sens, le besoin de collaborer, de se réaliser. Donc pour revenir à votre question, est-ce que le salaire est un élément important du bonheur ou du bien-être des collaborateurs ? J'aime bien parler de bien-être. Oui, je le pense, parce que il remplit une fonction économique. Si on reprend la pyramide de Maslow, le salaire, c'est la sécurité. Ça me donne de quoi me payer mon logement, mes factures, me nourrir, partir en vacances. Donc oui, ça participe de mon bien-être. Ça peut même aller au-delà, puisque ça peut, si j'ai un salaire un peu important, si je gagne des primes, ça peut être des signes de reconnaissance de l'entreprise. Mais en même temps, ça ne va pas tout faire. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les gens vont mettre en avant la quête de sens, même l'impact sociétal de leur métier ou de l'entreprise pour laquelle ils vont travailler, comme facteur de motivation et de bien-être.
Alors justement, peut-il être un facteur de démotivation ?
Je pense que c'est un élément de motivation fort. Je pense que c'est surtout un élément de démotivation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un collaborateur va commencer à ne plus être satisfait de son salaire, il va très vite se démotiver. Alors que, s'il est OK avec le salaire, il va effectivement se pencher sur la quête de sens, la reconnaissance, etc. Ça peut aussi être un facteur de démotivation quand on sent qu'il y a un manque de clarté dans la politique de rémunération, qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des inégalités entre les collaborateurs. La perception des inégalités, elle est très individuelle, très subjective, mais des fois, elle est réelle. Un collaborateur qui aurait exactement le même niveau d'expérience, le même niveau d'expertise et de performance qu'un autre et que l'autre soit rémunéré 20% de plus, forcément, ça va être démotivant.
Alors, à l'inverse, jusqu'où le salaire peut-il être un facteur de motivation ?
Alors, il y a des études qui ont été faites, on les trouve assez facilement, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la motivation et le bien-être, notamment aussi, ça croît à peu près proportionnellement, jusqu'à à peu près 70 000 euros par an, je crois que c'est ça qui est dit dans les études. On a dit 5 000 euros par mois ou 70 000 euros par an. Et qu'après, effectivement, le salaire peut augmenter de manière exponentielle. La corrélation avec le bien-être, en tout cas, n'est pas forcément évidente. Oui, je pense qu'il y a un moment où un salaire trop élevé, ça peut être quelque chose, une fois de plus, qui est considéré comme accessoire. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est plus forcément ça ma priorité. On l'a vu, il y a des gens qui gagnent des sommes démesurées et qui perdent la réalité de ça. Donc, en fait, on sent que c'est plus ça qui les tire, qui les motive. Donc ça, c'est pour le collaborateur en tant que tel. Et puis après, oui, la démotivation, c'est quand on a des disparités très fortes dans les échelles de rémunération au sein d'une entreprise. Pour les gens qui sont plus en bas de l'échelle et qui n'ont pas forcément la lisibilité sur ce qui amène certains autres à se trouver tout en haut de l'échelle, là, oui, ça peut être un gros facteur de démotivation.
Et côté entreprise, à quel point le salaire permet d'attirer ou de fidéliser un collaborateur ?
Alors souvent, au moment du recrutement, la question du salaire est un des sujets sur lesquels on va beaucoup discuter et ça peut faire partie des choses qui vont faire basculer la décision du candidat. Quand on est capable d'aligner une proposition financière qui est vraiment très attractive, oui, forcément, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Donc ça permet des choses. Et en même temps, le salaire n'étant pas la seule motivation des candidats aujourd'hui, c'est pas ce qui va faire le tout dans l'attraction. Et dans la rétention, c'est la même chose. On est très régulièrement confronté à des cas de salariés qui viennent nous voir en disant « j'ai reçu une proposition de telle entreprise, même de tel concurrent ». Donc le départ du salarié pourrait être un vrai problème pour le business de l'entreprise parce qu'on perdrait des compétences au profit d'un compétiteur. Et souvent, la discussion va s'axer autour de la rémunération.
Donc, si la politique de rémunération est bien faite, vous n'avez pas à payer quelqu'un, soit pour l'attirer, soit pour le...
Si elle est bien faite, on ne va pas avoir besoin de la survendre. Effectivement, on va être attractif. Et effectivement, on aura peu de problèmes de rétention parce que... Enfin, on aura peu de problèmes de départ parce que les gens trouveront que notre politique de rémunération est suffisamment attractive, suffisamment compétitive.
Mais vous avez déjà rencontré ça ?
Ah oui, parce que comme je vous le disais, c'est très dépendant de la stratégie de l'entreprise pour laquelle vous travaillez et des stratégies de vos concurrents, j'ai envie de dire, quand on en vient un peu à parler de la guerre des talents. Quel que soit le secteur d'activité, vous trouvez toujours un nouvel entrant sur le marché qui va un peu chercher à acheter le marché, qui va faire un pari, qui va développer qui va dégager une grosse enveloppe de cash, j'ai envie de dire, pour arriver à réussir à acheter les bons talents du marché. Donc il va avoir une politique un peu inflationniste où il va arriver en surpayant les gens. Il va arriver en leur proposant des niveaux de salaire qui sont au-dessus de ce qui se fait habituellement pour être sûr de réussir à les attirer.
Et comment peut-on satisfaire ses collaborateurs ?
Dans ma carrière de RH, j'ai assez rarement entendu des gens venir me dire « je suis très très content de mon salaire et merci beaucoup ». Je ne sais pas si c'est basé sur une réelle insatisfaction ou sur une posture pour aussi négocier. Hein. C'est toujours difficile d'aller demander une augmentation quand 5 minutes avant, on a dit « ben non, en fait, je suis content ». Ok, ben, si tu es content, pourquoi tu veux une augmentation ? Je pense que par contre, ce qui vient de se passer aura accéléré d'autres choses sur les attentes des salariés. Peut-être pas tellement au niveau du salaire en tant que tel, mais plutôt sur l'équilibre général du travail. Et donc, de ce qu'on voit et de ce que je peux lire, j'ai l'impression que les gens vont effectivement avoir envie d'avoir un niveau de salaire qui leur permette d'avoir une vie confortable selon leurs critères, mais qu'en même temps, ils ne seront pas prêts à dépasser une certaine limite dans les efforts à fournir, notamment par exemple pour obtenir des folles rémunérations variables, ou, voilà, parce qu'ils vont vouloir préserver un équilibre vie pro-vie perso beaucoup plus fort que ce qui était dans le temps. Je pense qu'on s'émancipe progressivement de cette culture des workaholics, qui étaient prêts à bosser très très tôt le matin, très très tard le soir et pendant les week-ends, pour effectivement gagner plus. Je pense que ça, les gens vont s'éloigner de ce modèle-là pour préserver une part de vie personnelle plus significative et confortable.
Le salaire, doit-il être proportionnel au ROI des collaborateurs ?
J'ai en tête cet exemple d'un jeune entrepreneur américain qui s'appelle Dan Price, je crois, qui a monté une start-up il y a quelques années. Et en fait, dès le début de son entreprise, il a décidé de fixer le salaire minimum à $70,000 par an, qui est conséquent. Et à ce moment-là, il y avait même eu des reportages sur lui sur des chaînes des médias américains où il le traitait de communiste. Enfin voilà, il disait que c'était complètement délirant. Et donc 6 ans plus tard, il a triplé son chiffre d'affaires, il a fait grandir ses équipes de 70%. Il est étudié par Harvard comme un cas d'école sur les bonnes choses à faire. Donc voilà, il y a 6 ans en arrière, le ROI très instantané, très direct de sa manière de concevoir le salaire dans l'entreprise, il ne devait pas être énorme. Et donc 6 ans plus tard, on se rend bien compte qu'il aura eu un retour sur investissement très, très fort.
Comment évaluer, déterminer un salaire du coup ?
Déterminer un salaire ? Alors, il y a énormément de méthodes hein, pour ça. Je pense qu'il faut déjà déterminer le salaire en fonction des missions qui vont être associées au poste. Donc, qu'est-ce qu'on va demander aux collaborateurs de produire et quel impact ça va avoir globalement, ce que ça va apporter à l'entreprise de manière générale. Généralement, les commerciaux sont les fonctions les mieux rémunérées parce qu'effectivement, ils ont un impact très direct sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Maintenant, c'est des choses qui peuvent être réévaluées aussi parce que le chiffre d'affaires, c'est très facilement quantifiable et palpable. Il y a des gens qui peuvent avoir un impact tout aussi fort qu'un commercial sans forcément générer du chiffre directement. Après, il y a aussi toutes les notions d'évaluation par rapport au marché autour de soi. Une fois de plus, on cherche à attirer des gens, on cherche à être compétitif. Donc on a énormément d'études aujourd'hui, une fois de plus, de rémunération, des baromètres qui nous permettent de nous positionner. Et puis, par rapport au niveau de maturité, aux moyens qu'on a, voilà, c'est une stratégie de se dire j'investis, j'y vais, ou alors j'ai besoin de faire un peu attention à ce que je peux dépenser sur ma masse salariale, donc je réduis la valeur.
Alors justement, pour aller plus loin, concernant la politique de rémunération des salaires, ça passe par quoi en fait concrètement ? Comment vous la mettez en place ? Comment vous pouvez la faire évoluer ?
Comment on la met en place ? Il y a un certain nombre de piliers stratégiques dans une politique de rémunération. Il va bien sûr y avoir le salaire fixe, parce que c'est la grosse partie du débat. C'est l'élément, c'est un peu le socle d'une politique de rémunération. C'est ce qu'on va donner de manière régulière aux collaborateurs. Donc ça, déjà, il faut faire en sorte que, une fois de plus, il soit suffisamment attractif pour le niveau de compétences qu'on a besoin d'attirer, qu'il soit suffisamment compétitif par rapport à notre marché. Et puis après, il faut qu'on le fasse évoluer, parce que, on le sait, voilà, les gens, même s'ils restent sur le même job, il y a des gens, même encore dans nos industries, qui pourtant évoluent très vite, qui vont rester 5-6 ans sur un job. Donc, sans qu'il y ait de changement de job, sans qu'il y ait de promotion, etc., il faut qu'on leur fasse évoluer leur salaire, parce que il y a l'inflation, et puis les gens vieillissent, leurs enfants grandissent. Enfin, on a tous des besoins qui vont plutôt en grandissant. C'est un peu le modèle de la société aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a toute cette réflexion autour du salaire fixe. Et puis après, il y a toutes les composantes qu'on va mettre autour. Donc, comment est-ce qu'on rémunère la performance individuelle, collective, avec des rémunérations variables, directes ou indirectes, hein. Ça peut être, je te donne une prime qui est régulière ou qui est exceptionnelle quand tu as super performé. Ça peut être, je t'intéresse à la performance de l'entreprise en te donnant des stock options, en te donnant de l'intéressement et de la participation. Ça peut être aussi... voilà, des choses un peu plus directes, mais pourtant importantes. La mutuelle, la prévoyance, l'épargne-retraite, voilà. Donc, c'est réussir à couvrir un peu tout ce spectre de la relation vraiment économique entre le salarié et l'entreprise, de « tu me donnes du travail, voilà ce que je te donne en retour ». Et après, il y a tellement de choses que comment est-ce qu'on la fait évoluer ? C'est en fonction du niveau de maturité de l'entreprise et puis aussi de l'accroche qu'on voit. Il y a tout un business case justement sur McDonald's et comment ils ont réussi à faire évoluer leur politique de rémunération parce que c'est une des plus grandes entreprises mondiales en termes d'effectifs et puis ils sont dans un modèle de franchisé. Donc comment est-ce qu'on réussit à aligner les milliers de franchises qu'on a dans le monde et à rémunérer les gens en fonction de ça. Et ils ont été par petites touches, hein. Ils n'ont pas réussi à trouver la bonne formule. Mais ça se perçoit directement parce que comme on l'a dit, la rémunération est un facteur de motivation fort, mais encore plus de démotivation. Donc, si vous perdez vos collaborateurs de manière très régulière, que vous n'arrivez pas à recruter, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qu'il faut vous ajuster dans votre politique de rémunération.
Comment peut-on envisager le salaire dans les années futures, selon vous ?
Alors, il y a beaucoup de modèles qui se développent. On parle notamment des rémunérations cafétéria, où les entreprises sont capables de proposer des modèles de rémunération où, en fait, chacun va pouvoir aller choisir et faire un peu... son bouquet, sa formule, en fonction de ses besoins. Je trouve le modèle très intéressant, compliqué à mettre en place. Enfin, faut des moyens et puis il faut beaucoup d'expertise pour le faire. Donc, ça ne peut pas s'adresser à toutes les entreprises. Mais effectivement, ça peut être une des clés du futur d'être capable de répondre plus finement parce que un individu, quand il a 30 ans et quand il a 55 ans, il n'a pas les mêmes envies, il n'a pas les mêmes besoins en matière de rémunération. Donc, si on réussit à trouver cette formule agile, j'ai envie de dire, qui permettent d'avoir un système qui répondra à l'un et à l'autre, c'est un peu la clé de la réussite. En tout cas, ce serait parfait. Et après, sur le salaire en tant que tel, je pense que la valeur salaire, en tout cas le salaire fixe de base, ça, je ne le vois pas évoluer dans sa forme. Voilà, on sait qu'on parle beaucoup de la flexibilité de l'emploi, du fait que les métiers indépendants ont tendance à se développer. Donc peut-être que ça, c'est des choses un peu plus dans la relation qu'on va avoir à l'entreprise, de dire j'ai peut-être pas besoin d'être salarié en permanence, je peux me satisfaire d'un contrat de freelancer ou pas. Voilà. Je pense que les formes du travail et du coup de la rémunération qui va avec peuvent se diversifier un peu plus. Et après, on peut peut-être être un tout petit peu plus créatif dans la manière de construire les politiques de rémunération avec tous les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui.
Est-ce que pour vous, la transparence des salaires avec une grille de rémunération visible, ce serait une bonne chose ? Ou des salaires variables uniquement sur le temps passé, les objectifs remplis, salaire à la tâche ?
Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont été sur ce modèle, notamment tout ce mouvement des entreprises libérées. Et une des composantes, c'est effectivement beaucoup de transparence sur les éléments de rémunération. Quand ça s'inscrit dans une culture, un projet d'entreprise, que l'entreprise a la maturité et le recul pour le faire, oui, pourquoi pas. Ça peut même être assez vertueux, je pense. Après, ça ne s'applique pas à tout le monde. Et des entreprises où les échelles de rémunération, les grilles de rémunération sont très transparentes et connues de tous... Il y en a une énorme en France qui s'appelle la fonction publique. Et pour avoir fait un petit passage chez eux, je sais que ça, pour le coup, c'était pas toujours vécu comme quelque chose de bénéfique pour l'entreprise, cette transparence. Ça crée plus de frustration et de compétition entre les uns et les autres qu'autre chose. C'est comme tout, je pense que toutes les recettes ne fonctionnent pas pour tout le monde.